Voilà, bien, bonjour à tous. Il nous est bien agréable de nous retrouver ce matin autour du Seigneur pour l'adorer, le louer. Et j'ai particulièrement été touché par ces paroles de bienvenue, d'accueil, très chaleureuses, exprimées par votre pasteur ici, Jacques Beauvert. Ceci étant dit, nous poursuivons dans le droit fil de ce qui a été dit ces temps derniers à propos de dépression, à propos d'angoisse. Et c'est très exactement de louange dont nous allons parler ce matin. Et nous avons un psaume de louange tout à fait, je dirais, particulier, auquel nous allons nous intéresser ce matin, qui va nous enrichir et qui va nous encourager à la louange. Le psaume 103e, nous le lisons entièrement parce qu'il est vraiment nécessaire que nous le fassions, que nous le lisions entièrement. Voici ce que dit David. Souvenons-nous qu'alors que David chantait ce psaume, il était avancé en âge. Et j'en vois ici qui sont avancés en âge. Mon âme, dit David, en s'adressant à son âme, bénit l'Éternel. C'est une exhortation qu'il s'adresse. Voyez donc le temps du verbe, is et non pas it. Il se parle, il s'adresse à lui-même cette exhortation. Mon âme, bénit l'Éternel. Nous aurions pu dire, bénis donc l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse. Ses œuvres aux enfants d'Israël, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Heureusement, hein ? Gloire à son nom. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ça nous fait du bien, cela. Nous sommes des poussières, il s'en souvient. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Il se souvient de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, vas-y, loue l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel. Ce psaume est l'expression d'un cœur débordant de joie et de reconnaissance envers Dieu. Savez-vous, la louange est un jaillissement de joie du cœur du chrétien. envers Dieu, un jaillissement de joie, tandis que l'adoration, pour sa part, est un jaillissement d'amour. Il est bon de faire la distinction entre la louange et l'adoration. La louange est un ravissement, un jaillissement de joie. Quand notre cœur éclate en louange, c'est parce qu'il est comblé de joie par le Seigneur. Quand nous adorons, nous exprimons à Dieu un amour que nous n'avons, qui n'a pas en tout cas d'égal pour autre chose. Adorer, quand on dit par exemple « j'adore le chocolat », ça veut dire qu'on l'aime au plus possible. On l'aime, quelqu'un un jour, c'était à la convention de Guebwiller en France, j'avais parlé de l'esclavage éventuel de l'homme, de l'esclavage aussi du chrétien, on peut verser dans l'esclavage. Et après avoir parlé sur un thème de liberté, une jeune fille est venue vers moi pour me dire, Alain Chouaquier, moi, je sais de quoi je suis esclave. Je lui ai dit, mademoiselle, je vous écoute, du chocolat suisse. Du chocolat. Il me faut du chocolat le matin au réveil, du chocolat dans la journée, du chocolat le soir, du chocolat constamment. Je lui dis, mais madame, mademoiselle, votre foi, FOIE, et puis aussi votre foi, FOI. Alors elle m'a dit, oui, mon foi, FOIE, ça va encore, mais c'est surtout ma foi, FOI tout court, qui est en difficulté parce que le chocolat chez moi passe avant Dieu. J'aime le chocolat, je l'adore. Et en effet, adorer, c'est aimer, mais à un point tel, eh bien, que l'amour que nous vouons au chocolat, par exemple, ou à autre chose, n'a pas son égal. Et je crois que c'est Dieu que nous avons à aimer le plus, plus que n'importe qui. Et l'adoration est un ravissement en amour. Quand on dit on aime, on adore Dieu, c'est lui que nous aimons au plus haut point. Et c'est lui que nous avons à aimer au plus haut point. Il n'est rien que nous devions. Nous devons en tout cas aimer plus que Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment ? Nous l'avons dit hier soir. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voilà, ça c'est adorer. Adorer, c'est être ravi, littéralement ravi, en amour auprès de Dieu. Et louer Dieu. Eh bien, louer Dieu, c'est lui exprimer un jaillissement intérieur de joie, d'action de grâce, de reconnaissance. La louange est un jaillissement de joie. Pour dire à Dieu toute notre reconnaissance, toute notre action de grâce. Et savez-vous que lorsque David a écrit et chanté ce psaume, il était donc un vénérable vieillard, verset 5, de ce psaume. Un vénérable vieillard. Et voyez-vous, David, jusque dans son âge très avancé, il reconnaissait une fidélité de Dieu extraordinaire qui l'a accompagné tout au long de son existence. En 1 Roi 1.29, David dit ce qui suit. En 1 Roi 1.29, David était déjà âgé. Il dit « L'Éternel m'a délivré de toutes mes détresses. » Il est vivant. Fantastique cela. « L'Éternel m'a délivré de toutes mes détresses. » Il est vivant. Ah, combien sont-ils ceux qui pourraient, dans cette tranche d'âge qu'il est convenu d'appeler le troisième ou le quatrième âge, parler comme ce David-là. Pourtant, voyez-vous, dans son âge avancé, David aurait eu, j'allais dire, de bonnes occasions pour se plaindre. Parce que nous traitons de dépression, et nous traitons de plainte, d'angoisse. Pourquoi ? Eh bien, en 1 Roi 1.1, il est dit qu'il souffrait certainement d'une mauvaise circulation de son sang. Il avait une mauvaise circulation du sang, de son système sanguin, comme c'est très couramment le cas chez les personnes âgées. Il fallait le couvrir encore, le couvrir toujours, n'est-ce pas ? On lui mettait du duvet, encore du duvet. Il avait toujours froid. et certainement qu'il devait souffrir d'une mauvaise circulation du sang. Et chez une personne âgée, c'est difficile, c'est pénible. Ça, c'est au plan de sa santé. Un roi, un, dans ses vieux jours. D'une part, d'autre part, au plan politique, eh bien, tout n'allait pas pour le mieux quand il écrivit ce psaume. Un certain Adonijah, emporté par l'orgueil, voulut lui succéder parce que David approchait le temps de sa mort. Et Adonijah voulut en profiter pour se faire roi à la place de son père. Ça n'était pas lui que son père avait destiné à sa propre succession, c'était Salomon. Et Dieu voulait Salomon à la place de David, mais cet Adonijah, emporté par l'orgueil, voulut renverser cette situation, renverser la vapeur, et il s'était même proclamé roi, il avait déjà commencé de sacrifier, etc., de faire la fête, à l'insu même de son père, à l'insu de David. La situation politique était donc difficile, très difficile, et David, dans cette circonstance-là, aurait encore pu trouver, j'allais dire, de bonnes occasions pour se plaindre de son fils. Eh bien non, il loue. Ça, c'est quelque chose, hein. Il bénit Dieu. Et louer, bénir Dieu en toutes circonstances, mais quelle grâce! Et les textes nous disent encore en 1 Chronique 29-28 que malgré toutes les difficultés qu'il connaissait, au plan de sa santé, mauvaise circulation du sang, au plan politique, eh bien, il est dit que David eut une heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse, 1 Chronique 29-28, pourquoi? Il approchait aussi de la mort, vous savez. Vous savez qui, lorsqu'ils approchent la mort, tremblent, ont des frissons. David ne nous n'a jamais donné l'impression. Étudiez David jusqu'au bout, vous verrez qu'il avait même préparé toutes ses affaires. Il savait qu'il allait partir, n'est-ce pas? Et il est parti tranquille dans une heureuse vieillesse. C'est écrit pourquoi? Oh, il y a un texte que je cite très souvent aux personnes âgées, mais qui est aussi bon pour ceux qui connaissent des angoisses de mort. Et nos savants disent, à l'heure qu'il est, que la mort est source d'angoisse considérable. Le docteur Jung, auquel nous avons fait allusion au cours des soirs passés, a dit ce qui suit: « Je retrouve la peur de mourir dans les profondeurs de toute âme. » Et il a encore dit ce qui suit: « Tout homme de plus de 35 ans, là, nous aurions à dire, mais disons qu'il a dit ça en son temps, le docteur Jung, et tout homme âgé de plus de 35 ans, consciemment ou inconsciemment, est dominé par des angoisses de mort. » Eh bien, regardez ce que dit David. 2 Samuel 23, verset 1er. Voici les dernières paroles de David. Il s'agissait de ses dernières paroles. Il arrivait au terme de son existence. Regardez comment il parle. Il dit ce qui suit, verset 5 en particulier. « Dieu a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, offrant pleine sécurité. » Je pars tranquille. Je pars tranquille. Le Seigneur a fait avec moi, au plan personnel, il dit avec moi, une alliance éternelle. Pas une alliance d'une semaine, pas une alliance de 3 ans, 4 ans, même pas une alliance de 40 ans, puisque David a régné 40 ans. Il a régné donc plusieurs années en Israël. D'abord, il a régné à Hébron, puis ensuite à Jérusalem. Il a régné 40 ans, mais il ne dit pas que Dieu a fait avec lui une alliance de 40 ans, une alliance éternelle. Et puis ensuite, en tout point bien réglé, cette alliance-là, hein, ce contrat de Dieu, c'est un contrat bien réglé, ce n'est pas un contrat d'homme, ça, qui ment. Et quand Dieu fait une alliance bien réglée, mais quelle garantie pour nous! Et savez-vous que l'alliance qu'il a contractée avec nous, l'alliance éternelle, il l'a faite en Jésus-Christ. Elle a été en tout point bien réglée, celle-là aussi, hein, en tout point bien réglé, et ce salut qu'il nous donne, cette alliance éternelle, nous accorde, nous offre aussi, comme pour David, pleine sécurité. Voilà un homme qui parle tranquille. Mais quelle parole ! Voilà pourquoi David, à son âge, a loué le Seigneur, sans problème. Il était confiant jusqu'au bout. David, dans ses pires difficultés aussi, se livrait à un exercice auquel nous allons nous aussi nous livrer. Et je crois que David l'a appris, nous avons aussi à l'apprendre. David, lui, qui aurait pu très souvent verser en dépression, hein, face à des situations impossibles, quand on considère ce qu'a été sa vie, d'abord avec ce Saül, hein, qui le poursuivit constamment pour tenter de le tuer, de l'assassiner, dès que Saül a su que David avait été oint de Dieu, choisi de Dieu pour le remplacer, mais pour David, ça a été la fuite sans cesse. Et quand on pense aussi à la révolte de son propre fils, contre lui qui a tenté un renversement de situation, un coup d'État, qui a fait que justement que David a dû fuir Jérusalem, quand on pense à son propre fils Absalom qui lui a fait une honte à la face d'Israël, quelque chose d'inouï, avec un certain Achitophel dont nous allons parler cet après-midi, qui a fini dans le suicide, parce que déprimé, dans la trahison, etc., eh bien, on peut vraiment se poser la question de savoir comment David, lui, n'a pas aussi fini dans un hôpital psychiatrique. Hein ? Eh bien, non. Parce que David se livrait à un exercice des plus utiles, des plus nécessaires, des plus profitables. Il encourageait son âme à louer le Seigneur. Sa propre âme, son propre cœur. Et il lui disait même à son âme, attention, loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vous pose la question. Est-ce que nous n'oublions aucun des bienfaits de Dieu ? Ah, que de bienfaits nous échappent très souvent. Nous nous accoutumons même aux bienfaits de Dieu. Nous entrons dans une habitude qui fait que ça tombe bien normalement. Hein, au point que, pour finir, on n'a plus besoin de remercier Dieu. Vous connaissez l'histoire de cette dame qui lisait couramment le Notre Père et qui le disait. Et puis un jour, je ne sais pas, ce Notre Père, elle n'avait plus le goût de le dire, le désir de le dire, parce que ça devenait une vaine redite. Dans un premier temps, elle disait ce Notre Père de tout son cœur, et puis pour finir, c'était un moulin à prière. Alors elle avait cessé de le dire, mais il n'est pas interdit de dire le Notre Père, mais toutes les fois où nous avons à le dire, il faut que nous le disions du fond du cœur, hein, pas du tout par habitude. Alors elle avait cessé de le dire, et puis un jour, eh bien, son patron l'a débauchée. Elle s'est retrouvée sans ressources. Et elle a demandé à Dieu pourquoi, des explications. Et Dieu lui a dit, mais tu ne me demandes plus ton pain quotidien. C'était devenu une vaine redite pour toi. Et tu t'étais habitué au pain quotidien, au point que tu ne me l'as plus demandé. Alors j'ai cessé de te le donner. Tu le veux encore ? Alors repars de plus belle. Hein ? Vas-y. Et de tout ton cœur, et le Seigneur lui est venu en aide. Et je peux vous dire qu'ensuite, franchement, quand elle disait le Notre Père, c'était plus du bout des lèvres, mais c'était du fond du cœur. Hein. Voilà. Eh bien, je crois que le Seigneur se plaît quand nous nous intéressons à tous ses bienfaits pour être encouragés. Le malheur veut que très souvent nous nous occupions de ce qui ne va pas dans nos existences. On est patraque, on est fatigué. Et puis moi, je traîne un diabète depuis longtemps. Je sais pourquoi je l'ai, enfin, je n'ai pas le temps de vous le partager. Rapidement, parce que j'ai conscience que Dieu bénit mon ministère, ça n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui, mais je le vois de façon, je dirais, miraculeuse, mais il veut garder toute la gloire, lui, hein, le Seigneur. Il me connaît dans mes profondeurs. Alors il me tient dans une grande faiblesse pour que je puisse le louer. Je puis vous dire que il n'y a que très peu de temps que j'ai pu lui dire du fond du cœur, « Seigneur, merci pour ce diabète. » Parce qu'il te glorifie, c'est dur, hein, cela. Parce que jusqu'à présent, moi, je bougonnais. Hein. Je dis, « Seigneur, explique-toi, moi, je veux sortir de là. Hein. Arrange-toi comme tu veux. » Puis dernièrement, il n'était pas du tout d'accord, il m'a flanqué au lit pendant 3 mois. À cause d'une montée de glycémie. Alors là, j'ai plus du tout compris, j'ai dû annuler des engagements. Et vous êtes parmi les premiers, là. Hein, après la reprise, et j'avais même pensé téléphoner pour annuler. Je crois avoir même fait un peu frémir à Elisabeth et Jacques Bauvert. Quand je leur ai dit que ma santé n'allait pas du tout. Est-ce que ça va quand même? Eh bien, on peut se poser des questions, mais Dieu nous tient dans une extrême faiblesse. Et il voudrait qu'en toutes circonstances, comme David, hein, dans sa mauvaise circulation de sang, nous puissions quand même le louer, l'adorer. Et puis quand on le fait, eh bien, c'est du tonus pour nous au plan spirituel, au plan moral. On garde un bon moral, un moral d'acier, hein, jusque dans des circonstances difficiles, des circonstances pénibles. Mais enfin, vous savez que le Seigneur ne nous garde pas toujours dans une même situation. Moi, je crois qu'il peut me délivrer de mon diabète aujourd'hui, demain, hein, quand il le voudra. En tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur de demander une onction d'huile de la part de mes anciens, j'appartiens à une église, dans ce but-là. Alors, eh bien, David se livrait à cet exercice de la louange, s'encourageant lui-même à éclater en action de grâce devant son Dieu. Voilà le secret qui nous permet précisément de triompher des plaintes, des gémissements, parce que quand on compte les bienfaits de Dieu, on n'a plus le temps pour autre chose. On n'a plus le temps, hein. Et on en sort réjoui, béni, fortifié, renouvelé, encouragé, tout ce que vous voulez, jusque dans des situations très difficiles. Nous pourrions diviser ce psaume en 3 parties, des versets 1 à 5. David est seul concerné. Il parle de lui-même. Il s'encourage. Il exhorte, il encourage son âme à bénir Dieu, à le louer. Il encourage tout ce qui est en lui, tout ce qui est en lui. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi. Alors, qu'est-ce qui était en lui, en ce temps-là? Eh bien, sa vieillesse, son âge avancé. Ce n'est pas parce qu'on a un âge avancé qu'on va cesser de louer le Seigneur. On va le louer même dans nos rhumatismes. Hein, on va le louer même dans notre arthrite. On va le louer dans nos difficultés de santé. On doit le louer, ça. Ça aide. Ça remonte le moral. Et puis, qu'est-ce qui était en lui aussi, cette maladie, cette mauvaise circulation de son sang? Il devait le louer, ça, c'était encore en lui. Que tout ce qui est en moi loue le Seigneur, et puis ses sentiments aussi, sa volonté, sa conscience, son intelligence, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et David, par là, avoue, en quelque sorte, que son âme était lente à reconnaître les bienfaits de Dieu, comme la nôtre, hein. Notre âme est lente à reconnaître les bienfaits de Dieu souvent. Alors, il l'encourage, son âme. Il la réveille, en quelque sorte. Hein, il la réveille, il l'encourage, il l'exhorte. Et lui dit surtout, « N'en oublie aucun, et tu vas voir, mon âme, ça va te faire du bien. Tu n'auras plus le temps de t'apitoyer sur toi-même. Ça va te faire du bien. » Et puis, pour encourager son âme, toujours, il va faire comme un inventaire des bienfaits du Seigneur. Il est bon de faire un inventaire des bienfaits du Seigneur. Et si nos mémoires sont défaillantes, eh bien Dieu fasse que nous écrivions, précisément, que nous mettions sur papier un inventaire de ces bienfaits, parce qu'on est oublieux, très vite oublieux. Alors, comment commence-t-il, David? Premièrement, verset 3, « Oh, n'oublie pas mon âme !» C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. David n'oublie pas le pardon de Dieu à son égard. Et tout, au fond, commence avec cela, le pardon. C'est le premier verbe qu'il emploie, hein, le pardon. Et certainement que dans son esprit, il y avait précisément toute cette compassion de Dieu à son égard, tout le pardon de Dieu, cette miséricorde de Dieu à son égard. Et que de fois David a dû littéralement s'écrouler devant son Dieu pour des erreurs qu'il a commises avec Bathsheba, hein? Adultère et crime aussi, puisque il a fait assassiner son mari, Uri, un de ses généraux. Mais il a réalisé le pardon de Dieu, il s'était humilié vraiment de toute son âme. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mais à qui parle-t-il ? À son âme. N'oublie pas le pardon de Dieu. Et très, très souvent, nous l'oublions, ce pardon. Ce pardon qui libère, ce pardon qui guérit, ce pardon qui réjouit, hein, ce pardon si bienfaisant. Ce pardon, il s'en souvient aussi le jour du dénombrement. Il avait demandé à Joab d'opérer un dénombrement dans tout Israël. Et la Bible dit qu'en 1 Chronique 21:7 que cela déplut à l'Éternel. Pourquoi ? Parce que David s'était enorgueilli, vous savez, Israël allait bien de son temps. Israël était une puissance en ce temps-là, grâce à David. Et David s'en était quelque peu enorgueilli. Et ça avait déplu à l'Éternel. Alors il s'était humilié. C'est l'Éternel qui te pardonne, qui pardonne toutes tes iniquités. Déjà, nous avons de quoi louer le Seigneur ce matin. Il nous a pardonné. Est-ce que vous l'êtes ? Vous ne pouvez pas retenir la louange si vous êtes pardonné. Hein. Vous ne pouvez pas la retenir. C'est trop magnifique, cela. C'est extraordinaire. Et quand on pense au pardon, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais vous savez, pardonner, c'est beaucoup plus que donner. Hein. Et puis ensuite, verset 3. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit. Et David, certainement, a dû expérimenter toutes sortes de guérisons de la part de Dieu, en particulier celle... au psaume 32 à laquelle il fait allusion, une véritable dépression. Hein, le Seigneur l'a guéri de sa dépression. Relisez le psaume 32e, vous, et qui êtes en ce moment justement dans ces difficultés de dépression, d'angoisse. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et la dépression est une maladie, nous l'avons vu. Il guérit aussi nos angoisses, c'est extraordinaire. Il guérit toutes tes maladies. Puis ensuite, verset 4, il délivre, il te délivre. C'est l'Éternel qui te délivre. Il y a une sorte de crescendo. Il délivre ta vie de la fosse. C'est que de fois, David était au bord du gouffre, littéralement. Et Dieu l'a tiré de là. In extremis, mais Dieu l'a tiré. Surtout au bord du gouffre, quand l'ange vengeur... suite au dénombrement, avait tiré l'épée de Dieu contre Jérusalem. Hein. Alors David était littéralement effondré, il s'était écroulé face contre terre devant Dieu. Il était tombé, littéralement, c'est écrit, tombé entre les mains de Dieu pour demander grâce, pitié. Et Dieu avait alors arrêté la main de l'ange. Et Dieu avait délivré Jérusalem, Dieu avait délivré David. Et puis, voyez-vous, David aussi, il pense aux cavernes, au désert, où il a dû se rendre pour échapper à Saül, la caverne d'Adulam, hein, Samuel 22:1. Avant d'être dans un palais, David est passé dans des cavernes. Hein, pas mal de cavernes. La caverne d'Engedi, hein, Samuel 24:1. Et le désert est un peu partout. Et à chaque fois, le Seigneur l'a délivré, souvent in extremis. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Quelque chose. Et puis, c'est lui qui rassasie littéralement, qui couronne d'abord, pardon, verset 4, qui couronne de bonté, qui te couronne de bonté et de miséricorde, Dieu te couronne. Et pourtant, il était roi. Il avait reçu une couronne de main d'homme pour commencer, mais il semble que David préférait la couronne d'en haut, la couronne du Seigneur, la couronne de bonté, la couronne de miséricorde. Et nous aussi, nous avons été délivrés de la fosse. Nous avons été délivrés de la fosse éternelle, de la perdition éternelle. C'est quelque chose d'inouï. Quelle joie de nous savoir sauvés. C'est la première question que je pose généralement à quelqu'un qui vient pour un entretien, peut-être ici certains vont se rappeler la première question que je leur ai posée, Je ne les regarde pas. Eh bien, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Est-ce que vous êtes sauvé? Voilà. Eh bien, il faut que nous le sachions, cela. Pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu nous a fait grâce, il nous a délivrés de la fosse de destruction, de la perdition éternelle, de l'éloignement éternel, loin de sa face pour l'éternité, il nous en a délivrés. Et il nous a couronnés, parce que si David était roi, nous le sommes aussi. Vous êtes roi, vous ne le saviez pas? Eh bien, maintenant, vous le savez. Il a fait de nous des rois, dit la Bible, et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Hein? Nous sommes rois et sacrificateurs établis par Christ pour Dieu son Père. Nous aussi, nous avons été couronnés. Gloire à Dieu pour cela. C'est une grâce qui nous est accordée. Et puis, un autre verbe, il rassasie hein, de bien ta vieillesse. Il rassasie de bien ta vieillesse. Est-ce que nous réalisons le rassasiement que Dieu nous accorde couramment? On ne le voit pas quand on a des yeux que pour ce qui ne va pas. Alors on se lamente. Mais quand on a des yeux pour ce qui va, que le Seigneur nous donne d'être positifs et d'avoir des yeux pour ce qui va et non pas pour ce qui ne va pas. Notre inclination naturelle est d'avoir des yeux pour ce qui ne va pas. On est ainsi fait. Quand je regarde en face de moi, chez une personne qui est là en face, dans l'église ou n'importe où, j'ai cette tendance naturelle à regarder ce qui ne va pas. Pourquoi ne pas regarder ce qui va? On regarde de manière positive à ce moment-là. Et on se fait du bien. Et on est rassasié. Dans nos circonstances également, pourquoi ne pas regarder à ce qui va plutôt à ce qui ne va pas pour être positif et pour nous faire du bien? On est souvent très négatif. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui marchait pieds nus, hein, qui n'avait pas de souliers, même pas d'argent pour avoir des souliers. C'est dans les pays chauds. Bon, souvent, moi je vois en Afrique ou aux Antilles ou en Amérique du Sud, en Guyane où j'étais l'an dernier, des hommes et des femmes qui marchent pieds nus. Bon, un homme un jour se plaignait, tu vois, Seigneur, je t'appartiens, et puis je marche pieds nus, j'aimerais un jour avoir une paire de souliers. Quand un jour le Seigneur lui fit rencontrer un homme sans pied, quand il a regardé à cet homme sans pied, il a dit, « Oh Seigneur, je te bénis, j'ai des pieds. Des pieds nus, mais j'ai des pieds. » Mais c'est cela, être positif, vous comprenez? C'est comme cela qu'on voit combien le Seigneur nous rassasie. Il nous rassasie, il nous comble. Et l'apôtre dit, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Le temps passe. Puis ensuite, David remarque que dans ses vieux jours, le Seigneur le renouvelait dans ses forces. Hein, il le faisait rajeunir comme l'aigle. Il y a six verbes là qui forment une sorte de crescendo à partir, j'allais dire, du pardon jusqu'à l'être positif. Vous comprenez? C'est comme cela qu'on voit combien le Seigneur nous rassasie. Il nous rassasie, il nous... cheminement chrétien. Hein, Dieu pardonne, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu rassasie, Dieu renouvelle. Mais c'est fantastique. Hein? Quel programme de vie. Et si nous nous livrons, nous, je signale qu'il y a six verbes. Hein? Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Six verbes, parce qu'après cela, on entre vraiment dans la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et c'est le septième verbe. Qui est le verbe parfait, celui-là, hein, la plénitude de celui-là.